je crois vraiment que le mot de profanation convient, parce que ce ne sont pas, si vous voulez, les actes d'un pilleur de tronc habituel. Ce ne sont pas non plus des actes qu'on pourrait qualifier d'actes d'un déséquilibré qui se met à casser quelque chose à droite ou à gauche. Là, on a affaire vraiment à des actes délibérés de profanation, puisque on a tracé une croix avec des excréments, et après avoir forcé le tabernacle, on a pris des hosties consacrées qu'on a répandues à terre, sur l'autel, et aussi sur cette croix. Donc il y a délibérément, si vous voulez, un acte par lequel on s'en prend à ce qui est au cœur de la foi des catholiques. Tout le monde partage l'indignation et se demande ce que cela signifie, parce que ce sont des faits d'une grande gravité.
Cette profanation, malheureusement, n'est pas un cas unique, puisque la semaine dernière, 5 églises ont été profanées à travers la France. Quel rapprochement on peut faire entre ces actes et que traduit cette série d'actes de profanation, d'après vous ?
Les actes ne sont pas partout de même nature. Maintenant, c'est vrai que le rapprochement, la même semaine, on se dit, voilà, est-ce que c'est un courant d'idées, un courant d'opinion ? Parfois, je pense à des groupes, aux pratiques sataniques, si vous voulez, ou à des groupes extrémistes religieux. Ça, vraiment, on n'en sait rien. Et on a l'impression qu'on a franchi une étape, on a franchi un degré. Qui est derrière ? Enfin, qui a voulu faire cela ? Parce que c'est vraiment délibéré. Enfin, on ne peut pas imaginer que c'est pris par une inspiration soudaine que quelqu'un se met à aller chercher des excréments pour les répandre dans l'église en forme de croix et après ça aller forcer le tabernacle.
Est-ce qu'il est encore possible de mettre fin à ces actes de profanation ou du moins de prévenir de nouveaux actes ?
Je suis persuadé que les autorités civiles cherchent aussi à mettre fin à des actes de vandalisme ou de profanation. Et puis, il y a une volonté aussi dans la population en général, si je puis dire, de chercher de vivre en paix. Enfin, la question, c'est de savoir si on peut laisser des églises ouvertes aussi. Bon, même si, quand elles sont fermées, on peut toujours fracturer les portes. Hein. C'est toujours un risque qu'on prend à laisser les églises ouvertes, mais c'est aussi un signe que l'église est ouverte à tous. Et je pense du reste que le Saint-Père y avait fait allusion dans l'exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile.
Et du côté des fidèles, vous en avez parlé tout à l'heure, des prêtres et des fidèles, ce genre d'événement, bien sûr, ça provoque de la tristesse, c'est une vraie blessure. La communauté diocésaine peut aussi éprouver de l'inquiétude, de la colère. Alors, quelle attitude adopter, d'après vous ?
Moi, j'ai été frappé de ce que les premiers à réagir de manière publique, officielle, ce sont les communautés contemplatives, les clarisses, les carmélites et les cisterciennes se sont mises d'accord tout de suite pour observer une journée de jeûne et d'adoration. Bon, je crois que c'est peut-être le signe de l'attitude profonde que nous avons à avoir, parce que en même temps que nous condamnons, bien sûr, avec la plus grande énergie, les personnes qui ont commis de tels actes, en même temps, nous nous reconnaissons les uns et les autres tous solidaires au fond d'une humanité pécheresse et appelée aussi à accueillir le salut qui nous vient du Seigneur. Voilà un peu l'attitude de fond. Alors après, les déterminations pratiques de l'ordre de la prudence, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut maintenir des églises ouvertes et en même temps ne pas trop risquer, si vous voulez, de vandalisme, ça reste un peu à la responsabilité de chaque paroisse, chaque communauté.